There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Envers du Décor, le podcast environnement du service sciences du HuffPost. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, Grégory. Et pourquoi ?
Eh bien parce que déjà il est pré-enregistré. Mais c'était quand même en direct.
Ah, ça a l'air hyper compliqué.
Non, en fait, c'est tout simple. C'est juste qu'on a testé pour la première fois au HuffPost un live YouTube. On était en direct, on avait un bel écran, un beau fond vert derrière sur lequel on a mis plein d'animations que vous verrez pas. Mais je pense que si vous fermez les yeux, vous pourrez vous projeter et nous imaginer là-dessus. Mais du coup, le problème...
Le problème, c'est que le son est un peu moindre que dans notre podcast habituel. Le problème aussi, c'est que, il faut le dire, on a quand même hésité un peu plus que d'habitude. Par moments, on était un peu comme un animal dans les phares d'une voiture. On savait pas exactement sur quel ton il fallait parler, puisqu'on n'a pas l'habitude de se retrouver comme ça en direct.
Voilà, mais en tout cas, le sujet, on pense qu'il va vous intéresser parce que nous, ça fait longtemps qu'on voulait faire un podcast dessus. On l'a fait en direct justement parce qu'il y avait une actualité assez forte qui était la primaire écologiste et qui nous permettait de parler de la décroissance.
La décroissance, parce que c'est un terme abordé de plus en plus aujourd'hui, mais qu'on définit souvent très mal. Donc là, on a pu revenir sur ce que c'est vraiment que la décroissance et pourquoi, puisque c'était le vrai thème de ce YouTube Live, pourquoi est-ce que tous les candidats écolos ne se disent pas décroissants ?
Dans cet épisode live, en fait, vous allez entendre parler de plein de choses. Vous allez entendre parler d'obus, vous allez entendre parler d'éléphants. Normalement, il y avait des images avec, vous les verrez pas, mais encore une fois, on pense que ça va bien se passer et le fond est vraiment génial.
La prochaine fois, on repart sur un podcast normal, donc vous inquiétez pas, vos oreilles vont pas continuer à souffrir comme ça de semaine en semaine. Et d'ici là, on vous laisse profiter de ce YouTube Live qui pour nous est une expérience nouvelle, donc n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de ce que vous en avez pensé.
Et si jamais, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube pour voir justement à quoi on ressemble.
Ah oui, c'est vrai ça, la chaîne YouTube du HuffPost. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous pour ce premier live de l'envers du décor. Donc l'envers du décor, c'est le podcast environnement du HuffPost. Si vous ne le connaissez pas encore, il est largement temps de vous abonner. On a décidé de faire un live pour la première fois de l'histoire de ce podcast. On s'est basé sur le fait que c'est la primaire écolo. Et oui, ça commence aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, c'est du 16 au 19 septembre. Il y a quand même 122 000 inscrits à la primaire, donc il se peut que vous en fassiez partie.
Contre 30 000 pour la dernière, donc grosse progression.
Grosse progression. Et nous, on s'est dit qu'on allait parler de ce sujet d'une manière un peu détournée ou un peu alternative, comme on aime bien faire à l'envers du décor. Et donc, on va parler de quoi, Grégory, pour parler à notre manière de la primaire écolo ?
Alors, au départ, j'ai regardé un peu, on s'est creusé la tête, on a regardé tous les programmes qui sont très, très larges. Donc, on a essayé de resserrer sur un sujet qu'on aime beaucoup et qu'on avait envie de traiter depuis pas mal de temps sur le podcast, qui est
les
la
bagnoles.
Décroissance. Non. Alors ça, on va en parler des bagnoles, mais non. Non, la décroissance.
Ah oui.
Donc, la décroissance qui est le fer de lance du programme de Delphine Bateau. Mais en réalité, quand on s'est un peu demandé en fait pourquoi tous les candidats écolos seraient pas décroissants, parce que la décroissance, c'est un concept qui est très à la mode,
ouais.
Qui est dans l'idée de se dire justement il faut arrêter avec cette recherche d'une croissance sans fin infinie, il faut respecter la nature, revenir à des choses plus concrète. Et du coup, on a un peu interrogé ce concept qui est en réalité super compliqué.
Avant de continuer sur le fond, on va parler deux secondes de la forme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est notre tout premier live. Donc là, je sais qu'il y a des trucs qui vont pas et je sais qu'il y a des trucs qui n'iront pas d'un point de vue technique. Donc, il va falloir être vraiment très sympa. Et
très
comme
sympa.
On sait, ce qui caractérise les réseaux sociaux en général, c'est d'être très sympa.
Donc, ça va super bien marcher, je
Exactement.
Pense. Mais de manière générale, n'hésitez pas justement à nous dire s'il y a un truc qui ne va pas, si vous n'entendez pas du tout, s'il y a un problème d'image. Et surtout, si vous avez des questions sur la décroissance, sur ce sujet et sur le programme, parce que sur la primaire écolo en tant que telle, politiquement, on ne va pas avoir grand-chose à dire. C'est pas là-dessus qu'on est spécialiste, hein, parce que là, ce n'est pas un podcast politique, mine de rien. Et nous, on va vous parler un peu de tout ça. Et peut-être que le plus simple, ça serait déjà de laisser la personne qui en parle le mieux en parler.
Oui, donc effectivement, commençons peut-être par laisser parler la candidate à la primaire écolo qui se dit décroissante. Cette personne, c'est Delphine Batho.
La décroissance, ce n'est pas les Amish ni la lampe à huile. La décroissance, c'est d'abord une issue de secours, mais aussi un projet de société positif. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de grande souffrance, dans une société vide de sens, rongée par le consumérisme, par le productivisme, qui détruit tout et qui nous emmène dans le mur, qui détruit le climat, qui détruit la biodiversité, mais qui provoque aussi énormément de souffrances sociales, avec des burn-out, des licenciements, des délocalisations, une explosion des inégalités, une augmentation de la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout notre modèle de société est dans une course folle à l'augmentation de la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation du PIB. La vision d'avant, c'était que pour réduire les inégalités, il fallait augmenter la production, augmenter la consommation. Le monde de demain est un monde de partage et de réduction des inégalités en respectant les limites planétaires, parce que la planète a des limites physiques.
Donc Delphine Batho, là, ça devient déjà intéressant. Parce qu'elle définit la décroissance non seulement comme effectivement le projet politique alternatif, et ça, à la limite, c'est une déclaration qui, j'allais dire, qui coûte pas très cher, mais surtout, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé là-dedans, c'est qu'elle le décrit comme un projet positif. Et c'est pas quelque chose qu'on associe normalement à la décroissance. Alors, moi, la question, comme ça, naturellement, qui me vient à l'esprit, c'est en quoi la décroissance peut être un truc positif, parce que tout ce que j'associe naturellement à la décroissance, c'est plutôt le fait de revenir en arrière, ou disons de tirer vers plutôt ce qui est plutôt une forme de sobriété que je qualifierais pas vraiment de positive.
C'est ça, mais en réalité, c'est quand même c'est là que tu vois qu'on a parfois une vision un peu biaisée. On va en parler. Donc Delphine Batho, ce qu'elle veut, c'est vraiment justement qu'on arrête que les décisions soient prises en fonction des bilans comptables et de la course folle vers la surchauffe économique, mais en fonction du bien-être humain, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation du vivant. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais comment c'est possible en fait? Est-ce que c'est pas un peu contre-intuitif? C'est d'ailleurs une des critiques qu'elle a eues de la part des autres candidats.
Juste pour continuer deux secondes sur Delphine Batho, parce que c'est vrai qu'on parle... Donc, la citation que tu donnes là, elle est vraiment intéressante, mais d'une manière très concrète, ça veut dire des thématiques comme, par exemple, la démobilité. Alors, qu'est-ce que c'est la démobilité?
Alors, je sais pas, mais parce que il faut comprendre quand même que les programmes, pour l'instant, c'est une primaire, donc c'est pas du tout finalisé, etc. C'est y a des trucs par-ci, par-là, mais pour moi, démobilité, ça veut dire moins bouger. Non.
Alors oui, moi j'avais vu ça comme moins bouger, mais par exemple dans les mouvements pendulaires, tu vois, je m'étais dit l'idée, et ça c'est une tendance de fond qui traverse par exemple les constructions de villes nouvelles, c'est qu'on va peut-être faire moins de bagnoles pour rejoindre son boulot, parce que non seulement ça prend un temps fou, donc socialement c'est pas génial, mais en plus écologiquement bah, c'est très mauvais.
Ouais, et d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure, on va parler bagnoles dans un prochain épisode de L'Envers du Décor, donc le podcast, ça sera sûrement pas en live je pense, parce que c'est trop compliqué. Et qu'on va pas le faire tout le temps, mais en tout cas, j'ai pas mal creusé la question. Et en fait, on bouge pas plus qu'avant. On a toujours fait, enfin, ça fait plus d'un siècle qu'on fait toujours le même de nombre et le même temps de déplacement par jour, mais on bouge beaucoup plus loin. Donc, je pense que la démobilité, c'est ça, c'est resserrer les distances, c'est-à-dire peut-être moins prendre l'avion pour aller moins souvent plus loin, et surtout trouver des moyens, des manières de vivre qui permettent de pas avoir besoin de prendre la voiture pour aller travailler, pour aller faire ses courses, etc. Donc, je pense que c'est ça, la démobilité. Donc, en soi, ça peut être sympa, mais c'est vrai que dit comme ça, démobilité, bah, moi, ça me démobilise un peu, quoi.
Super. Donc voilà. Là, on a résumé, alors, ultra brièvement, le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, la seule des candidats écologistes à la primaire à se dire vraiment officiellement décroissante, c'est Delphine Batho. Des candidats, il y en a cinq. Les autres se disent pas décroissants, ou en tout cas, ils ont une objection à apporter à l'idée de les qualifier de décroissants, alors même que, comme on l'a dit, ça va plutôt bien avec l'idée qu'on peut se faire de l'écologie, de la sobriété énergétique, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi eux se disent pas décroissants, et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait revenir maintenant, avant d'aller peut-être plus au fond dans l'idée de pourquoi vous avez tout faux sur la décroissance et pourquoi en fait vous savez pas du tout ce que c'est.
Et on rappelle encore une fois que pour vous parler de ça, on va parler d'obus, on va parler d'éléphants,
oui.
On va parler de plein de... Ça va être top. Hein. Mais pour l'instant, on fait des trucs un peu... Faut parler de la primaire, quoi.
Ouais.
Du coup, alors Delphine Batho, donc ce que vous avez vu, les choses qu'on vous a lues, elle en a parlé partout. Il y avait une interview de reporter. On mettra évidemment toutes les sources dans la description du live YouTube et ensuite dans la description du podcast et dans l'épisode qui l'article qui accompagnera l'épisode. Et là, il y a le site Le Monde qui a fait un bon travail de synthèse où en fait tous les candidats ont dû parler de la décroissance parce que ce thème s'est imposé lors du deuxième débat de la primaire, je crois.
Ouais, tout à fait.
Et on a donc par exemple Jean-Marc Governatori qui est plutôt le candidat un peu de droite de la primaire, non,
si je... On peut dire que c'est le plus centriste des écolos, si on veut.
Voilà. Et lui, il dit qu'il veut revoir notre mode de vie, mais il veut pas parler de décroissance. Il aime pas le mot. Pareil pour Éric Piolle, qui lui dit que la croissance est devenue une religion, donc il aime pas la croissance, mais il dit qu'il est ni pour ni contre, il y croit pas tout court.
Donc, ce qui est marrant, c'est que venant d'Éric Piolle, on se serait plutôt attendu à ce que lui assume le mot décroissance, étant donné que jusqu'ici, dans sa politique locale, en tout cas, il a plutôt assumé des positions, j'allais dire, très nettes, quoi. Très nettes, écologistes, disons très nettes. Donc, ça peut paraître assez étonnant. Donc, on a Yannick Jadot qui, lui, se dit partiellement décroissant.
Il est décroissant pour le carbone, pour les maladies liées à l'environnement et pour les pesticides.
Donc, lui, il fait un petit...
Il est croissant pour le bien vivre ensemble.
Ça, c'est...
Je sais pas. Ouais, ça serait bizarre en même temps de dire je suis décroissant là-dessus, j'ai envie qu'on vive mal ensemble. C'est quand même c'est assez compliqué, quoi.
Croissant pour bien vivre ensemble, c'est...
Et il y a Sandrine Rousseau aussi qui dit que la décroissance, c'est un projet social, sans une réforme de la fiscalité, sans une réduction massive des inégalités, sans un contrôle des marchés financiers et un protectionnisme aux frontières, ça n'existe pas. Ça, c'est intéressant parce que j'ai pu voir aussi dans les recherches que Sandrine Rousseau, son programme, c'est à peine 25 ou 30% d'écologie. Donc, elle parle de beaucoup d'autres choses pour une candidate écolo.
Donc là, en fait, ce qu'elle dit, c'est la décroissance, c'est sympa. En fait, c'est une toute petite partie de ce qu'il faudrait faire. Et mon programme, il est bien au-delà de ça. Et du coup, elle se place effectivement dans une optique vachement différente de tous les autres, quoi, qui est de dire « mon programme dépasse l'écologie, monsieur Poivre d'Arvor ».
Voilà, pourquoi pas. Non, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous un peu pas d'accord. Et en fait, vous allez voir qu'ils sont tous un peu décroissants, en réalité. Parce que la décroissance... C'est pas un truc aussi basique que juste bah là d'un coup on arrête l'économie et on revient bah aux amis, quoi, tu vois, à la lampe à huile, quoi, comme l'avait dit Emmanuel Macron. C'est un mouvement qui est vachement compliqué. On a pas mal travaillé là-dessus. Il y a plein de recherches de scientifiques, d'économistes, de spécialistes de l'écologie aussi, de l'écologie économique, où on essaie de faire le lien entre les deux. Donc c'est quelque chose de compliqué. Et il y en a en fait qui connaît très bien ça. On pourrait croire que c'est la spécialité de Delphine Bateau, mais Yannick Jadot, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Il a dit ça sur, je crois, dans un des débats. On mettra le lien. Il avait isolé ça sur Twitter. Il dit quand le terme décroissance est arrivé dans le débat public, l'idée c'était d'avoir un mot au but.
Ouais. Alors Jean-Marc Governatori, et là je vais devoir prendre mon papier parce que quand même c'est une citation. Jean-Marc Governatori, qui lui donc se place le plus au centre, le plus centriste des candidats écolos, il dit « Moi, je n'aurais pas employé le mot décroissance parce qu'il est possible qu'il soit peu audible par les 10 millions de personnes, donc en France, qui doivent survivre sous le seuil de pauvreté. » Et ça, cette objection-là, en fait, elle est de poids, quoi. Elle est de poids et elle est une question qui parcourt un peu la réflexion sur la décroissance, c'est-à-dire comment on fait peut-être pour être plus sobre ou pour avoir un modèle décroissant sur lequel on va revenir. Encore une fois, il y a des chances que ce soit pas exactement ce que vous croyez, sans laisser de côté ceux qui ont hyper besoin de la croissance, qui en général sont les moins aisés ou les plus pauvres.
Et voilà. Et ça, il y a une phrase du président qui l'illustre bien.
On doit remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif. C'est-à-dire chercher, par ces transformations, ces investissements, à produire différemment. Mais le deuxième choix auquel vous tournez le dos aussi, c'est celui qu'on appelle le modèle de la décroissance. Vous ne proposez pas de ne plus produire.
Comme vous avez pu entendre, donc c'était une phrase qu'il a souvent faite. Donc ça, c'était à la Convention citoyenne pour le climat, où il expliquait qu'il était pour, il voulait justement une transition énergétique. Il avait demandé aux citoyens, donc vous savez, ces 150 propositions qui ont... Il y a eu quelques jokers, et puis ensuite, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations, ce qui fait dire à pas mal de personnes que l'exercice démocratique n'a pas été vraiment jusqu'au bout. En tout cas, à ce moment, il avait été très clair pour lui, produire moins, travailler moins, en fait, ça permet pas de financer le modèle social. Et ça, c'est quand même une des critiques les plus classiques au mouvement de décroissance, c'est que la croissance économique, ça semble quand même pas mal positif, en fait.
En fait, voilà, il est assez difficile de trouver des modèles, disons, qui tendent à du progrès, qui tendent à peut-être aussi sortir les gens de la pauvreté, par exemple, sans y associer la croissance économique. On a fait aussi des petites recherches historiques parce qu'on n'a pas toujours été dans des sociétés en croissance, mais c'est vrai qu'en général, les sociétés non croissantes, c'était un peu les sociétés du statu quo, quoi. Et c'est vrai que par exemple, là, c'était toi qui étais allé chercher cet exemple-là, mais dans la Grèce antique, il y avait absolument pas de concept de croissance. Donc par exemple, l'excédent de production, qu'est-ce qu'on va en faire? On va plutôt... Le donner au dieu, on va plutôt le consacrer à des cérémonies qui sont là pour entretenir une forme de paix sociale, qui sont pas tellement là pour, au contraire, pousser vers du mieux, quoi, mais qui sont plutôt là pour assumer une forme de stabilité et donc de statu quo. Donc, avec cette idée de croissance, on a beaucoup associé l'idée justement de progrès, et donc qui dit décroissance, dit au mieux stabilité, statu quo, et au pire... le fait d'empirer les choses, quoi, le fait d'empirer la situation.
Et puis surtout, il y a cette idée un peu qui est souvent mise en avant avec raison, c'est que certes, il y a eu des exemples dans les sociétés par le passé, mais depuis, en gros, ces 200 dernières années, depuis la révolution industrielle et la révolution aussi scientifique qui est liée à celle-ci et qui même la précède, en fait, la plupart des indicateurs de bien-être humain, ils ont explosé. Le taux d'alphabétisation est beaucoup plus important. L'accès à la santé, l'espérance de vie, la baisse de la mortalité infantile, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. Alors, il faut savoir que tout ça, il y a des gros débats entre économistes parce que c'est compliqué de savoir comment ça se passait avant 1800 et notamment parce que justement, on utilise des indicateurs. Par exemple, on va essayer de prendre le PIB, d'avoir un équivalent PIB avant, donc c'est pas clair, mais ça semble assez évident. Quand on voit l'évolution du monde, que par rapport à il y a 500 ans, on vit quand même pas mal mieux, en fait. Et que l'innovation, la découverte, l'invention de choses, l'amélioration via des technologies, via la médecine, c'est souvent corrélé à la croissance, à la richesse de la société. En fait, Branko Milanović, c'est un économiste, il a inventé un truc qui s'appelle la courbe de l'éléphant. Il a regardé sur les 30 ou 40 dernières années de mémoire à quel point les gens s'étaient enrichis dans le monde. Et il a classé ça vraiment par les gens des moins riches aux plus riches il y a 40 ans, quel a été leur pourcentage de croissance, de richesse. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens dans les pays très pauvres, ils sont beaucoup enrichis. Et ensuite, ça baisse pour les gens plutôt, en gros, des pays occidentaux, mais la classe moyenne, on va dire. Et ensuite, ça remonte et ça fait comme une trompe qui remonte pour les 1 ou 10% les plus riches. Et donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui soit plutôt anti-décroissance et anti-pro-inégalité ou ce qu'on veut. Et lui, il dit en fait, le problème de la décroissance, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 10 à 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans le monde. Donc, si là, on se dit qu'on arrête la croissance économique, ça veut dire qu'on est dans un statu quo à minima, voire qu'on baisse. Donc, ces gens-là, on les laisse dans une situation d'extrême pauvreté. Donc ça, c'est difficilement envisageable éthiquement. Du coup, l'autre possibilité, ça serait de se dire... On les laisse croître, ces personnes, pour les sortir de la pauvreté. Mais pour que, du coup, il n'y ait pas de croissance globale, il faut que les personnes les plus riches, donc en gros l'Occident, les pays développés, les pays du Nord, on les appelle comme on veut, baissent leur niveau de vie. Donc, ce qu'il explique, c'est que ça veut dire, par exemple, si on veut, on choisit un revenu médian, donc le revenu vraiment moyen quand on prend sur le monde entier, il faudrait que à peu près 86% des habitants des pays du Nord, donc tout le monde, hein, tous les Français, par exemple, ils diminuent leurs revenus pour vivre avec 16 dollars par jour. Ce qui semble assez compliqué, techniquement.
En fait, oui. Et même, en fait, là, tout ça semble très compliqué. L'idée d'avoir une politique, disons, de reversement des richesses du monde très riche vers le monde pas riche pour arriver à un univers décroissant, c'est complètement décorrélé du réel. C'est-à-dire là, on peut pas être plus clair que ça. Moi, je vais prendre un exemple un peu qui nous est proche et qui est incroyablement plus réduit en termes d'envergure. Mais à la suite de la fin de l'URSS, vous savez, l'Allemagne s'est réunifiée. Ça, je ne pense pas que vous le découvriez avec nous. À ce moment-là, il y a eu un phénomène de rattrapage de l'Allemagne de l'Est. Enfin, l'Allemagne de l'Ouest a reversé énormément d'argent à l'Allemagne de l'Est. sous différentes formes, la forme purement de, voilà, de reversement d'une taxe, et puis énormément de travaux publics. On estime, donc ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, on estime que là, il y a une estimation récente qui dit que ça a à peu près été 2000 milliards d'euros qui ont été reversés de l'Ouest, vers l'Est, pour que les deux Allemagnes se retrouvent au même niveau. Donc, un peu en tout petit, ce qu'il faudrait faire universellement pour arriver à ce modèle décroissant slash égalitaire. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort qui a été fait par les Allemands et par l'Allemagne de l'Ouest, qui est considérable. Et même ça, on considère que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est, aujourd'hui, on sait très bien qu'elle est encore en retard par rapport à son voisin de l'Ouest. Donc, non seulement du point de vue numéraire, c'est honnêtement complètement inimaginable, c'est aussi pas une promesse de réussite. Donc là, on se heurte quand même à un mur assez costaud si on se dit, il faudrait qu'on fasse de la décroissance tout en faisant de la redistribution à super forte dose.
C'est ça. Et je te coupe juste pour quand même noter la blague exceptionnelle de The Pirouliette, qui dit que, parce que la question du titre, c'est quand même pourquoi tous les candidats à la primaire écologiste ne sont pas décroissants. Et ben justement, parce que ce sont des sympathisants de Jean-François Copé, ils sont chocolatines. Donc,
voilà. C'est oui.
C'est un gros bravo.
C'est largement oui, je cherchais à faire une blague avec le croissant depuis le début.
Exactement, c'est parfait. C'est parfait. En plus, une blague politique, donc ça marche parfaitement. Je vois aussi Sankart qui dit Adrien Quatennens est OK pour un débat constructif avec Jean Covici. Alors, Jean Covici, c'est quelqu'un dont on parle souvent il a une
posture. Je ne le qualifierais pas de décroissant, moi, Jean Covici.
Alors, non. Mais en même temps, si, il dit que, en termes d'énergie, on va avoir une vraie décroissance, mais qu'elle va pas être très heureuse du tout, quoi. Ça va être plutôt pas cool. Et ce qu'il essaye, c'est d'imaginer comment on peut la rendre la plus soutenable possible. Donc, mais en tout cas, il est plus,
C'est plutôt un collapso qu'un décroissant qui dirait ça, en fait.
Ouais, mais justement, lui, il est ni collapso, ni éco-moderniste, on va en reparler. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui ça doit être intéressant de débattre. On a même pas qui vienne à l'envers du décor, d'ailleurs. Un de ces quatre, je pense, ça pourrait être pas mal.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Mais en tout cas, t'as raison. L'exemple de l'Allemagne, c'est quand même un bon exemple. C'est que, actuellement, se dire que tout le monde, donc en France, on va tous d'un coup baisser, juste le pouvoir d'achat des gens, parce que on va pas tous d'un coup se dire on consomme 50, 60, 70% moins que ce qu'on fait actuellement. Donc, ça semble assez compliqué. Il y avait d'ailleurs un sondage assez marrant qui disait que 60, c'est un sondage Odoxa. Donc, encore une fois, les liens seront partout dans la description de la vidéo et ensuite du podcast. Donc, les Français, ils sont 67% à être favorables au concept de décroissance. Donc, c'est super, on va pouvoir décroître, quoi.
Ouais. Sans avoir toujours défini ce que c'était vraiment que la décroissance.
Voilà. Mais par contre,
continue, je t'en prie.
Ah, pardon, tu l'avais pas. Je croyais que tu l'avais.
Je l'ai, mais vas-y.
Mais par contre, donc ils sont 66% à se dire prêts à réduire leur consommation. Donc je sais pas si vous avez déjà participé à un sondage, mais en général, quand on vous demande si vous êtes prêt à faire un truc gentil, rarement non quand même. Par contre, si on leur demande s'ils sont OK pour qu'il y ait des lois qui limitent la consommation des ménages, parce que faut que tout le monde le fasse, là, ça marche pas trop. Et si il y a des lois qui disent qu'il faut que l'investissement en R&D diminue ou encore que ça entraîne la fermeture d'entreprises et de commerces, ils sont aussi pas trop pour. Sauf que pourquoi la fermeture d'entreprises et de commerces? Je me suis posé cette question.
Voilà, et en fait, il y a une petite, il y a un truc qui cloche dans cette question parce que c'est très bizarre de lier systématiquement. Tiens, vous voulez
décroissance, voilà.
Vous êtes OK pour qu'il y ait du chômage en même temps? C'est très curieux.
Bah oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce sondage est bizarre?
Eh bien, pour une bonne raison, c'est que ce sondage Odoxa a été demandé par le MEDEF, qui n'est, je pense, pas très décroissant dans l'ensemble.
Voilà, donc on vous cite ce sondage vraiment pour l'anecdote. En vrai, par principe, c'est une question qu'on pourrait poser régulièrement là, durant le stream, aux gens qui nous regardent. Est-ce que vous seriez OK pour une société décroissante? Le problème, c'est que là, on entre à peine dans le moment de définir ce que c'est. Là, pour le moment, vous avez dit pourquoi est-ce que, en théorie, on va dans un mur quand on parle de décroissance, qui est l'idée que il faudrait qu'on arrête de toujours exploiter plus pour essayer de d'économiser ce qui nous reste et de reverser à ceux qui n'ont pas. Mais ça, on l'a vu. En fait, ce constat-là, il fonctionne pas, en tout cas sous cette forme. Et ça tombe plutôt bien parce qu'en fait, la décroissance vraiment telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est pas exactement ça. C'est à la fois plus complexe, plus subtil et surtout un peu plus simple, en fait.
Ouais, en fait, c'est même pas ça du tout. L'idée de la décroissance, c'est pas de dire il y a la croissance et on va faire l'inverse. C'est pas ça, en fait. C'est juste de dire que la croissance, c'est pas important. Et il y a quelqu'un qui me l'a bien résumé. Donc, j'ai interrogé Antonin Potier, qui est maître de conférence à l'EHESS et qui travaille sur les enjeux justement de la représentation de l'environnement en économie. Donc, il essaye de faire le lien entre l'économie et l'écologie, parce que pendant des années, en fait, les économistes ont considéré qu'on va y revenir, on va vous expliquer ça aussi, que en fait, la nature, l'environnement, les ressources, tout ça, c'était pas important. Ça pouvait, les lois mathématiques de l'économie marchaient telles quelles. Et je vois justement Pennywise qui dit « Je suis pour la décroissance, mais pas au détriment des pauvres. » Et justement, la décroissance, c'est pas ça. Donc, il m'a donné, Antonin Potier, une définition d'un chercheur spécialiste de décroissance qui s'appelle Serge Latouche, qui dit que la décroissance, c'est un mot au but. C'est un slogan qui vise à fissurer un système de représentation qui met...
C'est un moment important du streaming parce que j'ai mis vraiment du temps à mettre cette vidéo dans le fond.
Voilà. Donc, un mot au but, un slogan qui vise à fissurer un système de représentation qui met au centre de la vie sociale la croissance économique.
Je sais pas si vous avez compris, là, en fait, on parle de mot au but.
Du coup,
il y a des obus.
Et des hélicoptères, ça. Ah bah voilà, parce que l'obus le détruit.
Le niveau de réflexion qu'on s'impose.
C'est quand même assez
élevé.
Voilà. Mais en même temps, ça permet un peu d'expliciter quelque chose qui est du coup que la décroissance, elle vise à changer l'imaginaire économique. En fait, la décroissance, elle est plus là pour détruire quelque chose, c'est-à-dire détruire le dogme de la croissance.
Voilà, et là, en fait, on en arrive au cœur du truc. La décroissance, donc, mot obus, ça veut dire qu'on n'est pas tant là pour vous expliquer comment on va faire que comment, là, il faut vraiment plus faire.
Comment faut pas faire, voilà.
Voilà. Et soit il faut plus faire pour des raisons, des raisons théoriques. C'est-à-dire que les matières premières sont limitées, l'expansion humaine est illimitée, il va falloir qu'on fasse mieux avec moins, ça, c'est la théorie. Mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. C'est... même si on exploitait les ressources jusqu'au bout, en fait, on aurait quand même un problème parce que les problèmes écologiques aujourd'hui auxquels on fait face font que de toute façon, on ne pourra même pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on rend la Terre de toute façon inhabitable. Donc, il y a cet impératif de décroissance qui est en quelque sorte doublé par une vérité écologique qu'au départ, les penseurs de la décroissance n'avaient pas forcément dans la vue, quoi.
Ah bah non, parce qu'en fait, les origines de la décroissance, c'est un peu...
arrête avec ce truc.
Ouais, dans les années 60-70 de mémoire, il y a un économiste, Hogan, qui parle du fait que c'était tout le moment où on se disait, en fait, le pétrole, à un bout d'un moment, on va plus en avoir, donc comment on fait? Et il considérait, on peut pas imaginer une croissance infinie alors qu'on a des ressources finies. Donc, on va dans le mur. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport Meadow, que vous connaissez peut-être, qui est souvent cité aussi, parce que c'est le premier moment où il y a eu des projections qui ont été très critiquées, qui peuvent être critiquables, qui sont très théoriques, qui disait en gros que on va aller dans le mur si on continue avec ce phénomène de croissance, et c'est un peu ça les origines. Mais depuis, ça a quand même pas mal évolué, et effectivement l'environnement, le réchauffement climatique, mais aussi surtout la biodiversité qui est aussi un énorme problème, où on commence à avoir un consensus scientifique qui dit que si on continue notre modèle actuel, on va détruire notre écosystème, l'environnement, et du coup on va s'autodétruire. Donc ça devient vraiment des faits scientifiques. On n'en est plus à des questions de est-ce que c'est vrai ou pas. C'est comme le réchauffement climatique. Donc, la question, c'est comment on change ça? Et les décroissances, ce qu'ils disent, c'est justement, il faut arrêter de penser que la croissance, c'est la base de tout. Et il faut plutôt imaginer, et ça, c'est la définition de Jason Hickel, qui est un économiste américain ou anglais, je crois, qui est spécialiste de la décroissance. Oui, j'ai pas très bien révisé, ça
vraiment
va,
travaillé.
N'est-ce pas? Qui dit « La décroissance, c'est une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources visant à rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant. »
Voilà.
À réduire les inégalités, à améliorer le bien-être de l'homme, parce qu'évidemment...
Voilà, et là, je vais m'arrêter tout de suite sur cette définition-là, parce que ça, c'est le genre de définition, moi, qui me... Comment dire... qui me fait un peu me frotter les dents, tu vois, entre elles. C'est cette idée que, en fait, on va tous se mettre d'accord pour mieux utiliser les ressources qu'on a, et en gros, ça ira mieux, quoi. En fait, il y a un côté, là, on est vraiment...
Très bisounours,
on repart
quoi.
Dans le côté un peu bisounours, qui fait moins mot au but et qui fait plus mot valise, en fait. Et du coup, là, ça m'embête. Pardon, Jason Hickel, je t'apprécie énormément, et je suis sûr que t'es vraiment un mec très bien. Mais du coup, là... Dans l'effort qu'on fait d'essayer de définir vraiment la décroissance, pas seulement comme un mot vague et sympa qui plairait à des gens qui, c'est vrai, en ont marre de se dire que la société de consommation va dans le mur, l'écologie, enfin la biosphère, disons, va dans le mur, il faut faire autrement, et cherchent des solutions concrètes. Et ensuite, on leur fournit des phrases comme celle-là qui sont des définitions intelligentes,
un peu facile,
assez belles, et en même temps, et voilà, qui t'aideront pas beaucoup. Alors que je trouve que quand on dit, effectivement, comme Antonin Potier de l'EHESS, eh ben en fait, c'est un mot au but. C'est-à-dire, le but, c'est quoi ? C'est de vous faire penser alternativement. C'est de dire d'abord, il faut commencer par cesser, par exemple, de systématiquement corréler PIB avec progrès, de systématiquement corréler croissance économique avec fin des inégalités. C'est ça, en fait, que pour moi, est peut-être une manière de surmonter ce fameux mur de bah, décroissance. Oui, OK, c'est l'inverse de la croissance.
Alors justement, Pennywise qui demande, on ne risque pas de régresser d'un point de vue technologique avec la décroissance. Ce que m'expliquait Antonin Potier, c'est qu'en fait, le concept de décroissance en tant que tel, c'est encore une fois pas de, de dire on va arrêter de progresser, que ce soit technologiquement ou autrement. C'est de se dire pourquoi la croissance économique serait obligatoirement la locomotive de tout ça. Est-ce qu'il y a une seule voie au progrès ? Et il m'expliquait que tout ça, en fait, ça vient d'une critique du terme développement, donc que vous connaissez tous, le développement durable, le développement humain à la base. Donc le développement, en fait, au départ, quand tu m'as dit ça, j'ai dit mais pourquoi on critique, enfin le développement, c'est bien de se développer. Et en fait, c'est un mot qui a été vraiment inventé après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand on réfléchit, le développement, il va que dans un sens. Et dans l'idée, à la base, le développement même durable, c'est l'idée de se demander comment, pour résumer, comment tous les pays deviennent les États-Unis, mais maintenant en faisant un truc durable avec de la croissance verte, avec des énergies renouvelables. Et lui, ce qu'il dit, c'est bah, est-ce que vraiment le développement, ça doit se faire dans cette direction, Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs voies de progrès différentes? Est-ce que la société ne peut pas progresser, y compris technologiquement, y compris en termes de bien-être, sans obligatoirement suivre une voie où c'est celle de la croissance, d'un marché, etc.
Et c'est là où on balance une bombe. On balance vraiment une info qui va faire que dans les dîners en ville, vous allez pouvoir vraiment vous la ramener. En fait, l'inventeur du PIB s'appelle Simon Kuznets. Il a inventé, déjà, le PIB, ça date de 1934. Avant, on ne mesurait pas le PIB. Donc déjà, première info.
Et on l'invente surtout pour une raison bien particulière. C'est qu'aux États-Unis, c'est la grande récession. Donc, il y a un vrai problème. Ils ne savent pas quand ils vont en sortir. Et du coup, le gouvernement dit, il nous faut un indicateur qui nous permette de savoir un peu à quel point on n'est pas bien et à quel point ça va mieux. Et du coup, ce truc, il est un peu fait en urgence dans une situation de crise.
Voilà, exactement. Donc, on prend des indicateurs. Bon, vous savez globalement à peu près ce que c'est que le PIB. On prend un peu tout ce qui est produit, on fait une grosse addition et bam, PIB, croissance du PIB.
Ça fait des chocs à pic.
Exactement. Et donc, Simon Kuznets, bim, inventeur du PIB en 1934 pour mesurer où on en est dans la crise économique des années 30. Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Il dit, en fait, à un moment, il va falloir qu'on mesure non pas seulement la croissance, mais les objectifs de la croissance. Il va falloir préciser la nature et la finalité de cette croissance. C'est le type qui a inventé le PIB qui le dit.
Voilà, il dit que ça ne suffit pas. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et il y a un exemple tout bête, c'est souvent, vous avez peut-être déjà vu ces graphiques qui sont souvent mis en avant par des gens comme Bill Gates ou autres qui ont vraiment envie de pousser vers plus de croissance et de se dire que plus on accélère, plus ça va aller.
Nous vacciner à la 5G aussi.
Oui, voilà aussi. Alors, évitons de voir cet été pas.
Bah, on aura plus de
gens. On fera un live Covid un jour, ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je disais du coup? Tu m'as totalement.
Bah, tu parlais de Bill Gates, là, ça m'a avancé, moi. Mais non, mais oui, tu me disais qu'il.
Oui, voilà, souvent, on corrèle, on dit, bah voilà, regardez, on met un graphique. Sur un axe, on a le PIB, sur l'autre, on a l'alphabétisation, l'accès à l'eau potable, enfin, tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une corrélation, c'est-à-dire plus le PIB augmente, plus un indicateur de bien-être augmente. Donc ça, c'est une corrélation, elle est claire, elle est nette, il n'y a vraiment pas à revenir dessus. On peut peut-être interroger les bases de données, ce qu'on veut, mais ça semble évident, même sur les 50 dernières années, c'est clair et net. Mais la question, c'est c'est parce qu'il y a du PIB qu'on arrive à ça? Est-ce qu'on ne peut pas mettre autre chose? Est-ce qu'il ne suffirait pas de... peut-être qu'il y a besoin de PIB pour sortir de la misère, mais le PIB, il ne fait pas toujours sortir de la misère. Ça, c'est aussi ce que me disait Antonin Potier.
Absolument. Je m'arrêtais juste sur le commentaire de Fred Forrest qui est très bien écrit, qui est juste et en même temps qui va un peu loin dans le programme politique parce qu'il me semble, pour quand même qu'on est, après avoir bossé dessus un peu ensemble, que la décroissance, c'est pas un programme politique aussi précis que arriver à une société écologiste sans la rupture brutale avec le capitalisme. Il me semble que c'est d'abord ouvrir des possibilités d'alternatives en décorrélant certaines notions qu'on corrèle toujours. C'est-à-dire, comme on vient de le dire, progrès, croissance du PIB, croissance du bien-être. Enfin, c'est choses que naturellement on fait, mais en fait on le fait depuis même pas un siècle. Donc c'est pas si de toute éternité non plus.
Et en fait, mais peut-être que parce que souvent le mot capitalisme, c'est comme le mot libéralisme, on l'utilise, moi y compris, de plein de manières pour résumer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais si l'idée de Fred, c'était de dire que la trajectoire actuelle d'une croissance perpétuelle et d'une amélioration économique et d'utiliser de plus en plus d'énergie, de produire de plus en plus de choses, elle est pas compatible avec l'écologie, avec le respect du climat, de la biodiversité. Il y a quand même de plus en plus de gens qui le disent sans être spécialement élevé. Sauf, il y a quand même des gens qui pensent l'inverse. C'est les écomodernistes dont on a déjà parlé.
Alors, les écomodernistes. Alors, le mot écomoderniste, c'est peut-être pas quelque chose que vous connaissez forcément, mais par contre, les écomodernistes, vous les connaissez. Parce que je pense le plus célèbre d'entre eux en France aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel Macron.
Je te coupe, on continue à avoir des blagues sur les croissants, donc c'est top, je suis fan.
Mais moi, c'est génial, allez-y, hein, les blagues sur les croissants.
On est pour.
En fait, King Rarium, on a déjà eu une blague croissant-décroissant, mais franchement, vas-y, quoi. N'hésite pas, on est...
Mais du coup, les écomodernistes,
Les écomodernistes, donc le premier d'entre eux en France en ce moment, c'est Emmanuel Macron. Vous vous rappelez du fameux discours avec la lampe à huile, en gros, il disait... moi, j'aime pas la décroissance parce que je considère que l'avenir, c'est pas le retour à la lampe à huile.
Le modèle Amish.
Alors, il me semble qu'on parle déjà depuis suffisamment longtemps pour qu'on soit au clair sur le fait que décroissance et lampe à huile, en fait, ce sont deux notions qui sont très différentes. Et d'ailleurs, je vous conseille un podcast qu'on a fait il y a déjà quelques temps sur l'idée que les Amish, d'abord, c'est pas du tout forcément le modèle non plus du retour à la Terre.
Vous apprendrez plein de choses sur les Amish.
Ouais. Ils utilisent des OGM, les Amish, alors ça va.
Voilà.
Ça va, le retour à la Terre, ça va. pourquoi on parle de ça? Ah oui, on parlait des écomodernistes.
Et donc, le premier d'entre eux...
Mais donc, c'est Emmanuel Macron, et le deuxième d'entre eux, c'est Jean Castex, exactement. On a quelques extraits à vous passer. Alors, magie de la technique, je voulais vraiment qu'on les entende, ceux-là, parce que je voulais qu'on les commente quasi en direct. Mais comme on ne va pas les entendre, on va quand même vous passer un petit extrait de Macron, un petit extrait de Castex.
Et si on peut les entendre, c'est bon. Il faut juste que tu règles le son.
Oui. Nous, on peut les entendre.
Ah non, nous, on va pas les entendre.
Voilà.
Ah oui, d'accord.
C'est ça le problème. Ok, donc on vous passe juste un petit extrait d'Emmanuel Macron et un petit extrait de Jean Castex.
Je peux même mettre Castex directement. Macron, on l'a déjà mis. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, tu vois.
Ouais. Mettons Jean Castex. Alors, faut pas qu'il soit trop fort non plus. Donc, on va le mettre là. Dites-nous si ça hurle. Oui. Merci.
Encore une fois, c'est notre
premier... L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte. Nous pouvons redevenir une grande nation industrielle grâce et par l'écologie. Mais la transition écologique...
Voilà. Alors moi, je sais pas ce qu'il dit. Le son est top et on ressemble à Nicolas Hulot. Alors, je sais pas qui. Je pense toi, parce que moi, on m'a déjà dit Romain Duris, mais Nicolas Hulot, non, quoi. Mais toi, peut-être, effectivement. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc. Regarde-moi. Ah, il y a un truc.
Non, mais tu sais.
Ah, il y a un truc. Attendez, est-ce qu'on peut faire un sondage? Modérateur, on peut faire des sondages. Je sais pas si ça marche, mais je veux bien un sondage. Est-ce que Mathieu ressemble à Nicolas Hulot?
Vous voulez que je vous dise, à une époque, je ressemblais à Ashton Kutcher, et c'est ça qu'on me disait. Et maintenant, je ressemble à Nicolas Hulot. Voilà. Voilà où on en est en termes de déchéance. Bref. Jean Castex, donc, en fait, dans ce discours qu'on n'a pas bien pu réentendre, en fait, il tient un discours qui est assez classique de ce qu'on appelle les écomodernistes, c'est-à-dire ce fameux truc de dire...
Bien que tu résumes, parce que moi, je ne l'ai pas entendu.
Je ne sais même pas
ce qu'il dit, là.
Moi, je veux la croissance verte. C'est-à-dire que je veux qu'on utilise moins d'énergie. Bien sûr, je veux qu'on pollue moins. Bien sûr, je veux qu'on consomme mieux, mais je veux que ça ne se fasse jamais au détriment de la croissance. Et là, il est très applaudi sur toute la droite de l'hémicycle. Ça, c'est intéressant. En même temps, c'est intéressant dans le sens où c'est ultra classique. C'est-à-dire que c'est la normalité, j'allais dire, d'un leader politique en action. Il va jamais vous dire autre chose que « je veux de la croissance ». Après, je trouve quand même marrant de se dire qu'il y a une petite infusion là-dedans de sobriété, si ce n'est de décroissance, mais de sobriété. C'est-à-dire que maintenant, tu peux pas seulement dire, comme Nicolas Sarkozy, même il y a une quinzaine d'années, simplement, je vais aller chercher la croissance avec les dents. Il va falloir que tu dises, je vais aller chercher la croissance propre avec les dents.
La croissance verte.
Voilà.
Et effectivement, donc l'idée en fait des éco-modernistes, pour résumer très très rapidement.
Mais non, Isa, tu t'es pas perdu sur YouTube.
Ah,
au contraire.
Mais non, bienvenue. Welcome. Voilà.
Salut.
On parle de décroissance et on fait des blagues sur les chocolatines aussi des fois. Et voilà. Et là, on parlait, donc je résume.
Très on a des vidéos d'obus aussi.
Ouais, ça c'est très très bien ça. Voilà. Ça, je pense, c'est le meilleur truc du live.
Oui.
En tout cas, les éco-modernistes, c'est des gens qui considèrent que il faut pas ralentir. Justement, il faut pas décroître et il faut pas chercher une voie, encore une fois, parallèle, parce que la décroissance, comme on le disait, c'est vraiment d'arrêter avec ce principe de croissance et de chercher des voies de développement différentes, en fait, qui changent, qui sont pas basées sur l'économie. Eux, ils disent, faut accélérer. Faut y aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et c'est la technologie. Donc, il y a une côté un côté très prophétique, très, une croyance. C'est la technologie qui va nous sauver. Alors, c'est basé sur plein de choses, notamment sur le fait qu'on arrive à réduire de plus en plus notre utilisation de ressources. Par exemple, un smartphone, avant, vous aviez besoin de 10 objets différents qui devaient être fabriqués. Maintenant, vous n'en avez plus qu'un et ça va aller de plus en plus dans la miniaturisation. On arrive à optimiser les choses, on arrive à faire du recyclage et surtout, on arrive à faire ce qu'on appelle le découplage croissance-émission de CO2. C'est-à-dire que jusque-là, la croissance, elle a toujours été liée à l'augmentation des émissions de CO2. Il y a même un économiste qui l'a montré, qui est devenu prix Nobel en 2018 de mémoire. Et du coup, c'était un problème parce que, en fait, il faut pas qu'il y ait de CO2 qui augmente, sinon on va tous mourir. Techniquement. Enfin, vos enfants, nos enfants. En gros.
Ouais, toi, ça va, quoi.
Non, mais c'est vrai. Enfin, faut être.
Faut être clair.
Faut être clair. Mais en tout cas, de plus en plus, il y a de plus en plus de pays, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, enfin, plein de pays du Nord, comme on dit, qui arrivent à avoir une croissance et des émissions de CO2 qui baissent. Donc, ça répond un peu à la question de Pennywise sur comment on fait avec une révolution énergétique, donc c'est-à-dire avoir des énergies propres et ou renouvelables. Donc, ça veut dire de l'éolienne, du solaire, des hydroélectriques, voire du nucléaire, parce que le nucléaire, c'est un autre débat. On a fait un podcast spécial dessus, allez-y, mais ça n'émet pas de CO2. Et donc, on arrive petit à petit à continuer à croître tout en ayant le CO2 qui baisse.
Voilà, là, il faut faire une petite incise et préciser quelque chose. En fait, sur l'énergie, il y a un débat un peu particulier et à part. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est décroissant. Et là, je veux dire, pour le coup, il me semble que c'est partagé par absolument
c'est
tout
le spectre. C'est la sobriété énergétique.
Exactement. L'énergie, c'est devenu un peu un objet spécifique. C'est-à-dire que tout homme politique peut dire que il attend des économies énergétiques. C'est-à-dire que ce soit par exemple en réparant ta baraque pour avoir à moins utiliser ton chauffage, que ce soit des progrès dans tes centrales d'ailleurs, que ce soit des centrales que ce soit des éoliennes ou des centrales nucléaires ou d'autres types d'énergie, tout le monde peut miser là-dessus. Il y a à mon avis il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est facile. Parce que de fait, l'énergie c'est le secteur qui, depuis 20 ans, fait des économies en termes de décarbonation, c'est-à-dire, en fait, pollue moins, quoi, absolument considérable. En fait, c'est ce qui drive une bonne partie du fait, c'est ce qui conduit une bonne partie du fait que nos émissions de CO2 stagnent, voire baissent. Donc, c'est du coup un peu l'objet facile à suivre. Il y a une autre petite anecdote, pas anecdote, mais ainsi ce que je voulais faire là-dessus sur le côté décroissant et éco-moderniste et infusion un peu d'un discours dans un autre. Il y a quelque chose, moi, qui m'a amusé autant que ça m'a mis en question certaines certitudes. Il y a des économistes hyper orthodoxes, donc disons libéraux, quoi, pour traduire, qui sont pour la décroissance, mais ils sont pour la décroissance d'une chose en particulier. Ils sont pour la décroissance démographique. Et en fait, ça, les décroissants, ils vont jamais parler de décroissance démographique. Il me semble pas. À part peut-être.
Alors, un petit peu. Si
voilà, j'allais dire peut-être.
Ouais, parce
Yves Cochet, je crois qu'il en parle, par exemple. C'est pas tout à fait un décroissant, mais.
Puis il y a l'idée de se dire que, pareil, on peut pas croître à l'infini en termes de nombre de personnes. Ça semble assez évident. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est un peu comme la décroissance énergétique. Tu vois, ça semble tellement évident. Enfin, en plus, maintenant, on sait qu'en termes de démographie, plus un pays se développe. Alors encore une fois, il faudrait revenir sur c'est quoi le développement, mais à accès à de la santé, à de l'éducation, etc. On l'a vu, il y a plein d'études bien spécifiques qui ont montré qu'est-ce que ça change, par exemple, que les femmes aient accès au travail, qu'elles aient accès au droit de vote, qu'elles aient accès à l'éducation, et aussi les hommes. En fait, on voit que la démographie se stabilise et que du coup, on a une stabilité qui est prévue par l'ONU en 2100. On va être, je sais plus, Enfin, ça va. En gros, là, ça a fait comme ça notre courbe. Non, il faut que je la fasse comme ça. Ça a fait comme ça la courbe de population et bientôt ça va faire ça.
On dessine ça mieux quand tu faisais l'éléphant.
C'est, ouais, mais l'éléphant, c'était compliqué. Déjà, on est à l'envers. Donc, c'est pas simple, hein, s'il te plaît.
Moi, j'aimais bien la vidéo de l'éléphant.
Ah, l'éléphant, eh bien, on va le remettre juste pour le remettre. T'as bien coupé le son, par contre. Oui,
très bien. J'espère. Oui, et donc.
Et donc, les écomodernistes. Alors, quelqu'un, Isa, disait les écomodernistes, c'est trois super riches qui vont faire des voyages dans l'espace sans payer de taxes punitives, alors que nous, les pauvres, on subit une écologie punitive et. J'aurais du mal
à dire
l'inverse.
C'est pas.
Parce que.
Ouais, c'est pas mal vu.
En fait, c'est vrai que les écomodernistes, il y a vraiment. C'est pas non plus des transhumanistes. Qui pensent que l'IA va tout sauver, mais il y a cette idée un peu qu'on va accélérer, et c'est un peu la technique du ruissellement puissance 1000, quoi. C'est, on va accélérer super vite, et en fait, la révolution technologique, elle va permettre de faire une transition beaucoup plus rapide, et du coup, il va y avoir, peut-être que les super riches vont continuer à s'enrichir, mais les pauvres aussi, et du coup, c'est vraiment le mythe de cette croissance qui va continuer parce que on utilise d'autres techniques. Et en fait, je sais pas si, enfin, c'est difficile de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Je prends un exemple pour essayer de me faire l'avocat du diable. Il y a un exemple, je sais pas si vous vous rappelez, en 2010, on parlait beaucoup des terres rares. Mmh. Les terres rares, ça permet de construire, donc, les téléphones, les voitures, les bidules, les batteries. Et c'est des sortes de métaux très spécifiques et on en avait besoin de plus en plus. Et ça devenait, c'était un enjeu économique parce que, notamment, la Chine possède quasiment toutes les terres rares au monde. Et du coup, on s'est dit, bah, il y en a tant, il y a tant de stocks, on va, au vu de la croissance du marché informatique, on va les avoir utilisés d'ici 30 ans, donc tout va finir, on va tous s'effondrer. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la Chine a vu que tout le monde avait besoin de terres rares, donc ils ont augmenté les prix. Et du coup, bah, en fait, il y a eu de la recherche et du développement, et les ingénieurs et les scientifiques ont trouvé des alternatives aux terres rares, et maintenant, on en utilise beaucoup moins.
De fait, s'il y a des écomodernistes, donc s'il y a vraiment des gens qui s'opposent à la décroissance, c'est parce que le pari de la technologie, en fait, là encore, on vit un peu dans une bulle, mais le pari de la technologie, au XXe siècle, il a souvent pas mal marché. C'est-à-dire que la vie, elle a été révolutionnée un nombre de fois extraordinaire en un siècle. Et donc, il y a un peu ce qu'on appelle... Ça, quand on joue au casino, c'est pas le biais de confirmation, c'est le... Tu sais, quand tu commences à gagner... Et du coup, ça donne l'idée que tu vas gagner à la suite. Ça s'appelle. Vous vous souvenez peut-être comment on appelle ça, mais c'est quand je tire au dé plusieurs fois 7, je suis persuadé que les fois suivantes, j'aurai aussi 7, même si ça n'a aucun sens. Et bien, il y a un côté là-dedans. C'est. On va faire le pari que la technologie va continuer à nous sortir de là, quoi. Là, le problème, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le mur, c'est plus tout à fait le même. C'est plus tout à fait la réduction, par exemple, des matières premières, parce que ça, on a compris que c'est pas tout à fait vrai. On l'a vu, par exemple, avec le pétrole, on était persuadé que le pic pétrolier, il aurait déjà lieu dans les années 70. Et en fait, bon, bah, on creuse plus profond, il se trouve que quand on creuse plus profond, on trouve d'autres trucs. Donc, c'est pas tant le problème de la limitation des matériaux disponibles, même si, en vrai, il y en a pour qui ça va être un problème.
Non, c'est l'impact de l'exploitation de ces ressources. Même si on la rend plus efficace, plus propre, bah, en fait, elle a un impact. Et on le voit avec le climat, mais même, elle a un impact aussi en termes de biodiversité. Et surtout, moi, je trouve le truc le plus important à rappeler, c'est que le mur, il est vraiment là. Il est vraiment... il est très, très proche. Donc, il y a quelqu'un dans les commentaires qui parle de la Chine qui invente une énergie propre. Alors, soleil artificiel chinois, je suppose que c'est la fusion nucléaire on va faire un petit sujet de podcast là-dessus, justement, parce qu'il y a un vrai truc là-dedans qui est en train de se faire. Il y a des vraies percées technologiques. Pour autant... Avant qu'on ait cette énergie propre qui puisse faire en sorte de sauver, enfin d'alimenter tout, mais on en est ultra loin. Ouais. Là, en vrai, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une seule solution possible. Il va falloir ce qu'on appelle un mix énergétique, mais dans tous les domaines, il va falloir prendre plusieurs briques et réussir à les assembler. Il y a des chercheurs qui bossent là-dessus pour essayer de faire ça. C'est ce que propose le GIEC, c'est ce que proposent plein de gens. Et il faut arriver à assembler tout ça. Il faut un peu de solaire, un peu d'éolien, un peu d'hydroélectrique, un peu de nucléaire à fission, un peu de nucléaire à fusion quand on l'aura, qui pourra peut-être petit à petit remplacer. Mais en tout cas, on va pas y arriver juste avec une baguette magique. Et de la même manière, ce que dit un peu le concept de décroissance, c'est la croissance n'est pas la seule solution et la seule réponse pour juste aller toujours mieux. Et y a justement, je reprends cette citation d'Antonin Potier, qui disait que la question c'est, et j'ai vu qu'elle a été posée sur les pays du Sud, est-ce qu'on peut avoir pour les pays du Sud une scolarisation, une alphabétisation des progrès médicaux sans croissance du PIB? Lui il dit, je m'en fiche, je sais pas. Et en fait, c'est pas le problème. Il dit ce qui me paraît plus important comme question, c'est de savoir si on peut avoir une scolarisation des progrès médicaux, etc., sans dégâts environnementaux. Et ça, bah aujourd'hui, c'est possible avec ce petit assemblage. Et pour ça, bah, il faut inventer, encore une fois, d'autres voies de progrès. Pas juste se dire, soit on s'arrête, soit on accélère en espérant que ça passe, en fait. Parce que c'est un peu ça, c'est on accélère en espérant qu'on va réussir à casser le mur. C'est un peu ça, l'écomodernisme.
Ouais, en fait, c'est là où l'écomodernisme se heurte un peu à un truc qui est que l'impératif écologique est un peu un impératif de sauvetage. Là, pour le coup, jusqu'ici, la croissance en elle-même, la croissance économique, a jamais prouvé qu'elle était capable de le faire. C'est-à-dire que la croissance, elle a prouvé pas mal de trucs. La croissance économique, elle a démontré pas mal de trucs. Notamment qu'effectivement, elle sort les gens de la pauvreté. Notamment qu'effectivement, on arrive à changer la vie des gens sur plein de points. On va pas refaire encore ce qu'on disait au début, mais on vit pas comme au Moyen-Âge. Et franchement, c'est très, 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 très bien. Et là-dessus, on peut faire des paris que la croissance économique, ça va servir. C'est-à-dire que si demain, on repart en mode 30 glorieuse, où on est à 6% de croissance, je vous garantis qu'il y a des trucs bien qui vont se passer. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement moins de chômage, il y aura sûrement moins de misère, il y aura sûrement plus d'innovation aussi, des choses comme ça. Par contre, pour ce qui est du mur qui nous arrive là, qui est un mur de biosphère, qui est un mur de raréfaction des espèces, qui est un mur de désertification des sols, ces murs-là, en fait, l'écomodernisme, il peut pas vraiment s'appuyer sur le fameux biais d'avoir eu raison dans le passé, quoi.
C'est ça. Et parce que en fait, certes, on commence à avoir un assemblage de technologies qui pourrait nous permettre en théorie, de devenir zéro carbone avec juste encore plus d'investissements économiques, une vraie croissance verte, une vraie transition énergétique, etc. Mais ça ne résoudra pas le problème de la biodiversité, ça ne résoudra pas tous les problèmes cités. Et du coup, il faut peut-être s'interroger un peu sur comment on imagine, qu'est-ce qui, encore une fois, conduit les voies de nos innovations. Parce qu'une innovation, c'est juste quelque chose qui résout un problème. Mais parfois, la solution à un problème, c'est elle-même un problème. Juste un truc tout bête, l'optimisation fiscale pour les très très riches qui leur permet de payer beaucoup moins d'impôts, bah, c'est une innovation en fait. Ça permet de résoudre un problème, mais ça en pose un autre qui fait que on a moins d'impôts et que du coup on a moins d'argent aussi pour financer des trucs. Donc en soi, la question c'est plus les voies en fait, les voies à trouver. Et là-dessus, moi je trouve quand même qu'il y a un problème avec la décroissance.
En fait, voilà, vas-y.
Bah c'est que c'est quand même un mot.
Il y a un problème de lexique.
C'est un mot au but. C'est un mot obus.
Ah, vite, les obus.
C'est un mot obus.
Non, mais il y a un vrai problème.
Voilà.
Il y a un vrai problème.
Donc, un mot obus, moi, perso, quand je vois ça, je me dis, ouais, ça peut peut-être casser le mur et le mythe de la croissance, mais par contre, j'imagine pas un futur durable et sous. Bah, tu vois, attends.
Si, c'est durable, ça. Non, mais par contre, j'avais pas remarqué qu'on voyait nos micros. Au départ, on les voyait pas. Je pense que l'écran a dévissé petit à petit.
Alors, il faut savoir que s'il y a des chaussettes.
Ça, c'est décroissant, ça.
C'est, voilà, ça, c'est très décroissant. C'est qu'on n'a pas de. Normalement, il y a des petites bonnettes, des machins, mais on a choisi on a utilisé des chaussettes parce qu'on en avait pas et qu'au moins, c'est réutilisable. Voilà. Donc, c'est.
Ouais, par nos pieds.
C'est durable.
et non, mais du coup, pour en revenir là-dessus, il y a un problème lexical. Mais ça, c'est un peu un classique de quand on veut faire passer des valeurs dans le champ politique ou public. C'est si déjà ton mot au départ il est pas sexy ou il invoque des choses comme pas les obus nécessairement mais comme d'autres valeurs qui sont négatives ou qui sont de retour en arrière dans une société où vraiment le retour en arrière c'est pas exactement ce qu'on nous vend en général, il y a pas de désir associé à ça, alors que aux idées de croissance en général on associe quand même alors je ne vais pas utiliser le mot affect parce que sinon il y aura bien un dingue de Spinoza qui va me tomber dessus, mais il y a bien des désirs associés à la croissance qui sont positifs.
C'est un imaginaire positif.
Ouais. Voilà, exactement. À la décroissance, en vrai, moi, si on vous pose la question à vous, mais je ne pense pas, à moins que vous soyez déjà très très politisé ou très versé dans la chose, qu'il y ait vraiment d'imaginaires positifs qui viennent. Au mieux, il y a un imaginaire de sobriété et ce n'est pas forcément très positif.
Ça ne donne pas très envie. Et c'est ce que disait Alain Damasio, qui est un auteur français que je vous recommande si vous ne connaissez pas, qui est génial, L'heure du contrevent, très très bon roman, qui est quelqu'un aussi qui s'interroge beaucoup sur la philosophie, la politique, où est-ce qu'on va. Et à un moment, dans une interview au Nouvel Obs, il parlait d'une autre expression, donc je me rappelle plus de laquelle, mais il dit « Cette expression, elle est triste, elle est réactive, c'est comme décroissance, anticapitaliste, décoloniale. Ça ne peut pas fonctionner. Quand on te dit décroissance, tu penses à des arbres rabougris, à des enfants qui grandissent pas. Moins et moins, ça ne fait pas plus. C'est la première grande critique de Nietzsche sur Hegel. Bon, là, ça monte un petit peu plus. Ce n'est pas avec une double négation que tu fais une affirmation. » Et en fait, c'est tout le problème de la décroissance, c'est que certes, c'est un super mot au but, il est bien pour casser le mythe de la croissance et pour se dire il y a d'autres voies de progrès possibles, mais par contre c'est pas avec ce genre de mots que tu vas donner envie aux gens.
Et là, on est en train de répondre à... En fait, on a attendu une bonne heure, mais on est en train de répondre à la question qu'on pose voilà. en bas du lecteur YouTube. Là.
Alors, c'est pourquoi souvent comme ça
qu'on fait. La... Oui, ben, je sais pas. Pourquoi les candidats à la primaire écologiste sont pas décroissants? Ben, parce que c'est vraiment pas sexy, le concept de décroissance. Après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est... Greg m'a mis des petites notes là sous les yeux, parce que moi, je prépare absolument pas. Hein. C'est lui qui prépare tout. et il m'a mis des petites notes sous les yeux, et il a écrit, et je trouve ça fabuleux, les économistes, certains économistes préfèrent parler, donc pour ne pas dire décroissant, oui, préfèrent parler de accroissance, de post-croissance ou d'économie stationnaire. Et là, vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne donne pas aux économistes le soin de préparer les campagnes politiques ? Parce que c'est encore pire, en fait. C'est-à-dire que là, ils pourraient trouver n'importe quel autre mot, je ne sais pas, brocoli, par exemple, ça me tenterait mieux que économie stationnaire. Économie brocoli.
Économie brocoli, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais en fait, c'est un vrai problème et c'est une vraie question. Et c'est pas juste un mot, en fait. Moi, je pense que, et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de
ah, d'ouvrir. Stop. C'est Coudière qui regarde une version écolo de CNews.
Wow.
Il y a un smiley à la fin, donc c'est sympa. Mais je sais toujours pas si c'est sympa.
Non, mais si, parce que c'est en même temps ce qu'on veut. Enfin, pas juste écolo. Le but aussi, c'est de réfléchir, ouais, de pas de. On a l'impression d'être du café du commerce, mais en fait, il y a un truc, quoi.
Alors que pas du tout.
Voilà. Mais en vrai, non, justement, je pense que ce qui est important et le concept même de décroissance, il montre où on en est, c'est que derrière le dogme de juste cette croissance et de cette fuite en avant de toujours plus et d'aller vers une économie de plus en plus productiviste. On n'arrive plus à avoir d'autres futurs possibles. Et c'est un peu pareil. Et les seuls trucs qu'on a de pas possibles, c'est des trucs qui sont critiques. Donc, il y a la décroissance, mais il y a aussi de l'effondrement. Vous avez déjà entendu parler de ce truc. C'est le fait de se dire, non, mais en fait, laissez tomber. C'est foutu. On va tous crever. On va tous s'effondrer. La société va mourir. Et du coup, il faut revenir. Il faut essayer de se préparer à l'après en essayant de trouver un lopin de terre dans lequel on va élever des chèvres et faire pousser des légumes. Donc, déjà, s'il y a 8 milliards d'êtres humains qui arrivent à trouver un lopin de terre, bah, tant mieux pour eux. Moi, j'y crois pas trop. Donc, je trouve que c'est un peu, problématique, mais surtout, quand on critique la direction actuelle qui est critiquable scientifiquement parlant, qui va dans le mieux en termes de climat, de biodiversité, eh ben en fait, on n'arrive pas à montrer des imaginaires collectifs. Il y a une philosophe, Larère, je crois que c'était ça qu'on avait interviewé, qui disait en fait des utopies, non pas dans le sens genre un monde un peu parfait, mais des utopies, c'est-à-dire des voies vers lesquelles aller. Et il nous manque ça, il nous manque l'envie de rêver, en fait, de rêver d'autres choses. Soit on a des choses qui disent la croissance, c'est génial, et on a par exemple, des romans de science-fiction ou autres qui imaginent un futur radieux où tout se développe. Soit on a des trucs très dystopiques où on dit, on est foutu, rien n'arrivera. Pourquoi on n'arrive pas à créer des alternatives, quoi?
En fait, ouais, c'est intéressant. C'est sans doute parce que tout notre imaginaire, il est constitué par une voie. C'est vrai qu'on emprunte maintenant depuis des décennies. Donc, c'est difficile de constituer autre chose. Il y a pas mal de gens qui y travaillent. Je vais juste revenir sur ta proposition à Pennywise. Moi, économie logique, je suis pas très chaud non plus. Hein. Je trouve pas ça très très fun. Moi, je suis un type simple, hein, mais il me faut vraiment des choses un peu, tu vois, rentre dedans, quoi.
Alors, justement, il y a Antonin Potier qui me disait aussi sur ce que je lui avais posé la question. Je lui ai dit, mais ce mot décroissance, ok, c'est un mot au but, c'est bien, mais ça construit pas. Alors, déjà, il me disait que certes, ça construit pas, mais est-ce qu'on peut dire que le mot décroissance en tant que mot au but, est-ce que ce mot au but, il a atteint son objectif? Est-ce que l'imaginaire, il a été complètement décolonisé de ce concept de croissance? Est-ce que maintenant, on peut imaginer d'autres chemins de progrès possibles? Donc, ça, c'est une vraie question.
Ouais, mais donc non.
Donc, enfin, non. Donc, je pense qu'il est toujours utile, ce mot, pour essayer de casser, si vraiment c'est son but. Mais par contre, il est d'accord pour dire que, pour lui, effectivement, il faudrait un autre mot pour imaginer un projet de société positif, et il voit pas comment créer un projet de société autour du mot décroissance. Et il me disait qu'il y a eu des tentatives autres que croissance, post-croissance ou économie stationnaire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, il y a sobriété heureuse, joie de vivre ou encore convivialité.
Non, mais en fait, là, on dirait qu'on joue au Scrabble.
Et en fait, non, mais justement, c'est tout le problème. C'est que ce qu'il me disait aussi, ça, je n'ai pas la citation exacte, mais quand on en discutait, il me disait que, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que, en fait, on sait pas. Il y a pas cet imaginaire, vu qu'il n'existe pas encore, il est peut-être en train de se construire. Il y a plein de gens qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre type de progrès, comme autre type de monde. Mais tant qu'en fait, cet imaginaire, il est pas là, on va pas pouvoir lui mettre un mot, tu vois, je pense.
Je sais pas. Je suis pas sûr.
Tu penses que c'est le mot qui crée?
Ouais, en politique, à mon avis, je pense que le mot valise crée l'imaginaire derrière. Mais après, je trouve, de toute façon, ce débat-là, il est absolument passionnant. Et j'ai envie de se dire que c'est là où il faut qu'on boucle un peu vers la fin, en se disant que, c'est pour ça. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait. La décroissance, c'est contrairement, Pardon Delphine Bateau. En fait, c'est pas apparemment exactement un projet de société en soi. Elle le définit comme ça parce qu'elle en fait vraiment l'image de marque de sa campagne aux primaires. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Et c'est, non seulement c'est pas sexy comme mot, d'accord, mais en plus, eh ben, ça suffit pas tout à fait à qualifier une politique. C'est-à-dire ouais. que des gens avec une politique atrocement antisociale pourraient probablement se dire décroissants. Et c'est pas ce que veulent non plus, je pense, les candidats à la primaire écolo. J'espère quand même que vous avez aussi compris avec tout ce dont on a parlé, on a beaucoup parlé et parfois on est allé très très vite, mais qu'il y a des thématiques de la décroissance qui vont infuser, pas seulement les primaires écolo, mais un peu partout dans cette campagne présidentielle, et ce sera marrant de les voir arriver. Parce que là, pour le coup, ils seront jamais qualifiés de décroissants.
Et de voir comment elles sont débattues, ouais.
Exactement, exactement. Y compris à droite, y compris par Emmanuel Macron, peut-être même ailleurs que pour le secteur énergétique.
Économie harmonieuse, c'est joli. Je sais pas si ça suffit, mais c'est joli.
Moi, j'aime bien, mais ça fait un peu cliché, quoi. Mais j'aime bien. Mais j'aime bien. Harmonieux, c'est pas mal. On va passer à notre écran final pour vous dire de vous abonner à l'envers du décor. J'ai un bel écran pour ça.
Yes. Parce que effectivement, donc là, c'était encore une fois, on le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, un épisode spécial. C'était notre premier live vidéo. D'habitude, on fait ça dans un studio qui est à côté, avec des gros enregistrements, des beaux micros bien cachés, hein, avec un son très chaleureux. Et le podcast, il s'appelle L'envers du décor. C'est marqué ici. Faut penser à faire l'inverse, c'est pas aller trop loin. Et c'est toutes les deux semaines. C'est un peu la même chose en fait, sauf qu'il n'y a pas d'interaction avec le public, et on parle justement on part d'une idée reçue sur l'environnement, et on essaye de l'interroger, d'essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière.
Voilà, c'est très bien dit. Donc normalement, effectivement, on est peut-être un peu moins hésitant, parce que là, comme on vous a déjà expliqué plusieurs fois, c'est la première fois qu'on fait un live comme celui-là, donc faut vraiment être très sympa avec nous. Mais vous avez été plutôt très sympa, ou alors on a modéré énormément de commentaires, c'est possible aussi. En tout cas, c'était très chouette de notre côté. On espère que vous y voyez un peu plus clair sur la décroissance, que vous soyez d'ailleurs votant à la primaire écolo ou pas, c'était absolument pas la question. Et puis, quel que soit votre bord politique aussi, c'était pas non plus la question. Et puis, bah, on sera ravis de vous retrouver, probablement en podcast audio, mais aussi à l'occasion d'un prochain live, parce qu'il y aura sûrement un prochain live. Après tout, le studio nous est pas tombé dessus, il n'y a pas eu de catastrophe.
Non, pour le coup, hein, franchement, on a eu quelques problèmes de son, mais ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression.
Oui, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. C'était super, vous étiez des millions, et ça, c'est extraordinaire. On ne pourra jamais vous remercier suffisamment pour ça.
Et surtout, si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on parle d'autres choses dans l'envers du décor, donc déjà, abonnez-vous, parce que sinon, vous n'allez pas le voir. Et n'hésitez pas à nous envoyer un mail, l'adresse, c'est...
lenversdudecor@ofpost.fr, l'envers, c'est L-E-N-V-E-R-T. Du décor, ça je vous fais pas l'insulte de vous épeler du décor, il n'y a pas d'accent, @ofpost.fr. Voilà, merci en tout
merci
cas
à
beaucoup,
tous.
À très bientôt.
Salut.
Au revoir.
Voilà, c'est fini. Vous pouvez reprendre une activité normale et enlever vos boules caisses. Le prochain épisode de l'envers du décor sera avec un son correct, mais c'est possible qu'on refasse des lives dans un futur plus ou moins lointain.
Ouais, parce que nous, ça nous a quand même bien plu.
On a bien rigolé. Franchement, encore une fois, allez voir, il y a des images assez marrantes avec les obus, les éléphants, c'est...
Ouais, montez pas trop le son du casque, parce qu'à un moment, il y a un petit problème de son. Mais à part ça, tout s'est hyper bien passé.
Allez, on vous dit au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et en parler à vos amis. Et on vous retrouve très bientôt pour vous parler des voitures.
Yes, les bagnoles, parce que ça, c'est vraiment notre thème.
Exactement. Et en fait, vous avez rien compris au débat entre bagnoles et environnement. Salut.
Salut.